Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, eh bien, cap sur le centre-ville, et plus précisément l'espace Van der Borcht, au 50 rue de l'Écuyer, où je vais rencontrer Anne-Sophie Radermacher. Alors, je l'ai rencontrée, l'interview s'est faite cet après-midi. Dans les mouvements et les bruits des derniers petits détails à régler pour cette exposition dont le vernissage a lieu aujourd'hui, l'exposition « Je suis là » qui s'ouvre donc officiellement demain. Donc si vous entendez en fond de la musique, des échelles et des coups de marteau, eh bien c'est tout à fait normal. Voilà. Anne-Sophie Radermacher est commissaire scientifique de cette exposition « Je suis là », une exposition consacrée à l'autoportrait, l'autoportrait aux origines et le selfie aujourd'hui. Et elle est par ailleurs également chargée de cours en gestion culturelle ici à l'ULB. Alors assez de blabla, on va rejoindre tout de suite Anne-Sophie Radermacher à l'espace Van der Borcht pour une visite en sa compagnie de l'exposition « Je suis là ». Anne-Sophie Radermacher, ben on se retrouve ici dans l'espace Van der Borcht à quelques heures de l'inauguration de cette nouvelle exposition. Je suis là, I am here. Alors c'est quoi l'histoire derrière cette expo?
Alors d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors l'objectif de l'exposition qui est organisée par ULB Culture, qui est vraiment un projet de l'Université libre de Bruxelles, c'est de s'intéresser à une problématique qui est l'autoreprésentation. C'est quoi l'autoreprésentation? Ben, c'est l'art de se montrer, de se regarder, de se raconter également par l'image de soi, par soi. Et donc, on est parti d'un geste très quotidien, finalement, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, se prendre en photo soi-même, c'est devenu assez simple. Et on a voulu questionner un peu cette pratique d'apparence si anodine pour mettre en évidence toute sa complexité. Et ce que l'exposition montre ici, c'est que l'acte de l'autoreprésentation, c'est avant tout un geste sociétal fort qui prend toute une série de dimensions qui sont abordées dans l'exposition, on y reviendra. Et c'est une mise en scène de soi. L'autoreprésentation n'est jamais neutre, c'est une mise en scène de soi. Et l'exposition interroge le pourquoi, le comment de cette mise en scène du soi. Et de façon totalement interdisciplinaire, puisque c'est comme je le disais, une exposition qui émane de l'ULB, qui est ancrée dans la recherche scientifique, essentiellement en sciences humaines et sociales. Et donc, on a abordé toute une série de disciplines pour soutenir nos discours, mais aussi de disciplines artistiques par le biais d'une sélection d'œuvres très variées.
Mais donc, on parle ici d'autoportrait, mais d'autoportrait moderne, ou est-ce que l'histoire de l'autoportrait est aussi abordée ?
Alors il y a de tout, c'est l'autoreprésentation, et l'autoreprésentation c'est vraiment l'ensemble des pratiques où des individus, artistes ou non d'ailleurs, vont à nouveau se définir, se représenter, se raconter. Et donc effectivement l'exposition démarre aux origines de la pratique, ou en tout cas là où on situe l'apparition du genre de l'autoportrait dans l'histoire de l'art, généralement à la Renaissance, et puis effectivement on va remonter le temps de manière relativement chronologique, avec l'invention de la photographie évidemment, qui a joué un rôle très important, comment l'autoportrait a été redéfini par les artistes tout au long du XXe siècle, avec les avant-gardes, avec le développement de l'art conceptuel. On verrait que dans l'exposition, tout ne ressemble pas toujours à un autoportrait tel qu'on l'imagine, et c'est normal, c'est la façon de le réinterpréter par les artistes. Et puis, à l'étage, parce que le parcours se structure en deux temps, là, on aborde plutôt l'autoreprésentation comme un geste vraiment sociétal. Donc on va aller voir quels sont finalement le potentiel, le pouvoir de cet outil. Déjà, pourquoi est-ce qu'on aime poster des images de soi? Ça, c'est plutôt les sciences cognitives qui viennent nous informer. Le rôle de l'autoportrait, de l'autoprésentation dans des mouvements de libération, d'émancipation, chez les artistes femmes, par exemple, chez les minorités. Et puis on va aborder aussi d'autres problématiques qui sont inhérentes à cette pratique, comme par exemple la fabrique du décor, le fait que il y a certaines dérives parfois associées à l'autoreprésentation, et également la commercialisation d'image de soi, qui est quelque chose de devenu aussi très important aujourd'hui. Donc c'est vraiment une exposition qui aborde cette pratique sous toute une série de dimensions pour permettre à tout un chacun d'en mesurer vraiment la profondeur.
Quand le projet a été réfléchi, pensé, vous envisagiez qui comme public ?
C'est une exposition qui cible la plupart des publics, vraiment. C'est l'objectif aussi d'une exposition de type universitaire, hein, c'est vraiment de s'ancrer dans la recherche, de favoriser la dissémination des savoirs en tant qu'acteur de la ville. Donc on cible en fait tous les publics, les plus jeunes peut-être qui seront les plus sensibilisés évidemment, en tout cas les plus directement concernés par cette pratique hein, de l'auto-représentation par le selfie sur les réseaux sociaux, les générations antérieures aussi qui peuvent s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on veut tellement tout le temps se mettre en avant. Parfois on peut avoir une vision un peu réductrice peut-être, et c'est normal hein, de l'auto-représentation, disant tiens c'est très égocentrique ou très narcissique. Et en fait ce qu'on veut amener avec cette exposition, c'est que tous les publics justement puissent comprendre ses spécificités et pouvoir relativiser peut-être un peu le regard que l'on a et comprendre voilà pourquoi certaines générations s'offusquent peut-être plus de voir ce type de pratique, d'autres sont complètement dedans, de créer ce dialogue. Alors il y a des activités pour les enfants aussi bien sûr, avec un petit livre pédagogique qui permet voilà de suivre l'exposition plutôt à leur rythme. Il y a des dispositifs plus interactifs aussi, plus ludiques, qui permettent voilà aussi à des tout jeunes de participer à l'exposition.
Donc en gros, on peut venir en famille.
Absolument, il faut venir même en famille. On espère que que l'exposition va générer aussi du dialogue en fait entre les parents, les enfants. Il y a une volonté de. C'est une exposition qui est engagée intellectuellement. C'est pas une exposition militante ni préventive, mais qui vise à informer simplement. Comme ça, tout un chacun peut après repartir avec une vision, on espère renouvelée de l'auto-représentation, et ensuite peut continuer sa pratique si il l'exerce, hein, de s'auto-représenter, de prendre des photos de soi, de les poster, mais de manière informée et documentée.
Donc quelque part, votre réussite absolue, ce serait une discussion parents-ados autour de la table du repas du soir après la visite de l'expo.
Par exemple, mais c'est aussi avant tout que les gens prennent du plaisir. Hein. Ça reste une exposition, à nouveau dans le centre-ville, avec des œuvres patrimoniales, des créations contemporaines. Il y a des belles choses à voir, il y a des œuvres qui sont aussi très riches de sens. Et donc c'est aussi voilà, de prendre du plaisir à venir visiter. Et si on peut repartir en ayant pris du plaisir et appris justement des choses sur cette pratique de l'auto-représentation, ben, pour nous, c'est gagné.
Vous le disiez à l'instant, effectivement, c'est une exposition donc de l'ULB, mais qui ne se tient pas du tout sur le terrain de l'ULB. On se retrouve, bah, une fois de plus, l'ULB commence à s'y déplacer assez régulièrement, à l'espace Vanderbort.
Oui, absolument. C'est dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Bruxelles qui nous permet d'utiliser cet espace qui est tout à fait central. On sait que l'ULB est un petit peu plus délocalisé géographiquement du centre, et donc ça fait partie des missions hein, aussi de l'ULB, d'agir comme acteur de la cité, de contribuer à la dissémination des savoirs, de les rendre accessibles. Et l'accessibilité, elle se marque ici dans l'exposition par le biais des contenus qu'on a essayé vraiment de rendre vraiment approchables, néanmoins ancrés dans la recherche, mais elle est aussi accessible en termes de gratuité, puisque c'est une exposition voilà, qui est gratuite ici à partir du 3 avril jusqu'au 31 mai. Il y a aussi toute une série d'activités connexes qui viennent se greffer au programme en lien avec des partenaires, des projections de films, des ateliers ici même au sein du Vanderborg, des conférences. Voilà, donc il y a tout un programme qui vise vraiment à toucher le plus grand nombre. Oui.
Alors l'idée effectivement, Anne-Sophie Redermacher, c'est de faire le tour de l'expo, alors sans tout dévoiler évidemment, hein, comme ça les gens auront quand même le plaisir de venir, mais voilà, alors fatalement ça va faire de l'écho, l'espace est énorme. Ça permet aussi beaucoup de choses, un espace pareil.
Absolument, c'est aussi un défi, hein, parce que le Vanderborg est en effet un espace très large, très vaste, donc il y a un espace dédié aussi notamment à des expositions. Donc on a travaillé avec une scénographe, Chloré Chapilla, qui nous a beaucoup aidé justement après la sélection des œuvres à disposer ces œuvres, à faire sens. Et donc c'est une exposition qui se structure en deux étages. Le rez-de-chaussée, qui suit, on va dire, un ordre plutôt chronologique, vraiment lié à l'histoire de l'art. Donc dans la première section, on va aller s'intéresser au contexte d'origine. Hein. C'est toujours important de bien resituer le contexte, avec notamment la fin du Moyen-Âge tardif, le début de la Renaissance, où l'autoportrait en fait se développe vraiment comme un genre pictural à part entière. On en explique un peu les mécanismes, hein, pourquoi les artistes commencent à développer ce genre en particulier. Puis on suit une trajectoire chronologique avec le 19e siècle, l'avènement de la photographie, évidemment, qui va accélérer un peu cette pratique, hein, en la rendant un petit peu plus instantanée. On va ensuite poursuivre finalement le trajet de l'histoire de l'art pour voir comment, au fil des mouvements, et notamment avec le développement des avant-gardes et de l'art conceptuel, comment l'autoportrait a été repensé, redéfini par les artistes, avec parfois des œuvres en fait, qui ressemblent à tout sauf à un autoportrait, mais qui n'en demeurent pas moins des autoportraits. On aborde aussi à cet étage, donc au rez-de-chaussée, la question du le thème de la vanité, qui est évidemment aussi lié à parfois une image peut-être un peu qu'on a dans l'imaginaire collectif de la représentation de soi comme étant un peu narcissique ou vaniteuse. Et en fait, on voit que c'est un thème qui existe depuis des siècles et on a toute une série d'œuvres d'artistes qui réinterprètent ce thème-là. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée, assez traditionnel, chronologique, histoire de l'art. Puis à l'étage, on va aborder davantage des problématiques sociétales qu'induisent l'autoreprésentation, avec par exemple déjà se questionner pourquoi est-ce que le selfie est si populaire, pourquoi est-ce qu'on aime se prendre en photo et que parfois ça procure un effet aussi de bien-être, de poster l'image de soi par exemple sur les réseaux sociaux. On essaie de comprendre un peu les mécanismes cognitifs derrière cela en faisant appel à des collègues spécialisés dans les sciences cognitives. On va ensuite voir comment cet outil de communication qu'est l'autoreprésentation a pu servir en fait des causes politiques, des causes militantes également, avec la possibilité pour certaines minorités, les femmes notamment, mais aussi des minorités de genre, à s'affirmer, à s'imposer, à construire une identité aussi dans la société. Et puis, au dernier étage, on aborde aussi des questions liées plutôt aux dérives du selfie, pour à nouveau une sorte de cadélioscope où tout le monde peut retrouver les différents aspects de cette problématique. C'est une visite qui dure à peu près une heure. Si on va rapidement, on peut évidemment se laisser aller beaucoup plus longtemps, mais c'est une exposition qui présente beaucoup d'œuvres avec des contenus qui restent néanmoins accessibles.
Si on démarre de la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se représente prenons les choses chronologiquement. Au départ, pourquoi est-ce que des artistes se mettent à faire des autoportraits ?
Alors, le genre se développe de l'autoportrait aux alentours fin du Moyen-Âge tardif, début de la Renaissance. Dans un contexte où l'humanisme se développe, s'impose. On est dans un contexte aussi d'évolution du statut vraiment de l'artiste. Les artistes commencent à être reconnaître comme tels par opposition au statut d'artisan. C'est une opposition qui a un peu moins lieu d'être aujourd'hui, mais c'est vraiment une époque assez charnière. Et donc pour l'artiste, l'autoportrait, à une époque aussi où innovation technologique, le miroir commence à se perfectionner aussi, donc on parvient plus facilement à se voir en fait concrètement, les artistes vont utiliser l'autoportrait pour laisser leurs traces, pour assumer dans certains cas la paternité de l'œuvre, à une époque où on ne signe pas encore beaucoup les œuvres, et aussi affirmer leur statut professionnel d'artiste. On a en Belgique, en tout cas dans les anciens Pays-Bas méridionaux, Jan van Eyck, qui est bien connu et qui est un des tout premiers à avoir proposé des autoportraits dans ses œuvres. D'abord très discret, et puis graduellement, l'autoportrait va vraiment s'imposer comme un genre à part entière. On pense aux autoportraits de Dürer à la fin du 15e, Rembrandt au 17e qui s'est amusé à se reproduire lui-même à différentes périodes de sa carrière, insufflant là un petit peu une dimension psychologique. Et donc au début, il y a vraiment un vecteur, l'autoreprésentation est une manière de s'affirmer en fait sur le plan de statut social, sur le plan professionnel. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que cette volonté, cette intention, il y a toujours une intention derrière l'autoreprésentation, d'imposer une image de soi, un statut, une identité, ça c'est quelque chose qui est transversal à toutes les époques. Indépendamment, chaque contexte est différent, évidemment, l'autoreprésentation c'est une pratique qui est très située, c'est important de la situer à chaque fois, mais ce besoin ou cette envie de s'affirmer, de poser une identité, un statut, c'est quelque chose qui est très fort et qui démarre en fait à la Renaissance.
Est-ce que chez certains artistes, il y a peut-être aussi un aspect de facilité ? Son visage à soi ou son corps, on l'a toujours sous la main.
Oui, absolument. Et au début, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir son portrait à soi, c'est une manière aussi d'avoir un peu sa carte de visite quelque part. C'est aussi une manière de pouvoir récupérer un modèle existant. C'est une manière de s'entraîner aussi sur soi. C'est un vrai exercice pratique et artistique de se représenter, parfois avec des traits très physionomiques et très réalistes. Et au début, on est plutôt dans cette perspective-là. Et puis, plus on va avancer dans l'histoire de l'art, plus là, ça devient presque un genre qui se prête à une forme d'art conceptuel, où ce n'est plus que le visage qui est représenté comme tel. On va jouer sur le corps de manière plus générale. On va jouer aussi sur certaines des traces, des empreintes, teintes, des fluides, parfois corporels, tout ce qui relève en fait du soi, sans être nécessairement le visage. C'est ça qui est assez intéressant et qui explique pourquoi, à nouveau, certains autoportraits présentés dans l'exposition n'ont pas l'air de prime abord d'autoportraits, mais néanmoins font état un peu de cette introspection intérieure qui est très propre à l'autoprésentation.
Donc quand on rentre, on démarre l'exposition, si on le fait de manière chronologique, ce qui est particulier avec le lieu, évidemment, c'est qu'on se retrouve un peu à cheval entre à la fois un côté muséal et, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, on a l'impression d'être plus proche des œuvres que dans un musée.
Alors oui, à l'inverse d'un musée, on ne va pas nécessairement avoir petits cordons qui empêchent de marcher. Il n'empêche que certaines œuvres ne peuvent pas être, par exemple, photographiées. Ça, on respecte évidemment les conditions des institutions prêteuses des œuvres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'intention de mettre nécessairement une barrière directe, évidemment ne pas toucher l'œuvre. Hein. Mais oui, ça fait partie aussi de l'espace, je pense, et de la conception de l'exposition. Et même aux autres étages, on va avoir des œuvres autour desquelles on peut tourner, des œuvres qui sont interactives aussi, avec lesquelles on peut interagir directement dans le cas d'installation. Donc c'est vrai que on essaye d'être attentif dans la sélection des œuvres, à éviter une exposition qui est strictement aussi beaux-arts et de mettre en avant à la fois la diversité des médiums. Tout en permettant une sorte de proximité avec l'œuvre, oui.
Alors, dans ce premier espace, cette première pièce, je vous demanderai bien de sélectionner une œuvre.
Oui, alors, c'est évidemment très tentant quand même de parler des Rembrandt, parce qu'à nouveau, Rembrandt a été tellement, tellement marquant pour avoir développé cet art de l'autoportrait par la gravure. Ici, on a des œuvres reproduites, mais qui proviennent de la collection Wittert de l'Université de Liège. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'on observe, en fait, avec Rembrandt, graduellement le rôle introspectif en fait de l'autoportrait. Il se représente lui-même à nouveau à différents âges, sous différentes facettes, parfois de manière mise en scène, et ça c'est vraiment important. Il incarne assez bien en fait cette pratique de l'autoprésentation, qui est toujours une forme de mise en scène, qui reste assez sobre, assez figurative encore évidemment à ce stade, mais c'est un artiste assez clé. Alors pour les œuvres, les tableaux qu'on a dans cette partie, on a pas mal d'œuvres qui sont du 19e siècle, début du 20e, où on reste encore dans une forme de configuration à nouveau très physionomique, très relativement réaliste aussi de soi. Ici, on a une œuvre d'Émile Mott, qui est un artiste peintre qui s'inscrit dans la tradition des pré-raphaélites, donc des maîtres italiens du 15e. Voilà, on n'a pas de tableaux originaux de maîtres anciens ici, mais c'est vrai qu'il s'inscrit dans cette perspective là, et donc voilà, on a un portrait ici très solennel, très classique dans la composition, mais on garde vraiment cette volonté de se représenter comme on est, peut-être avec une touche d'idéalisation ici, mais il incarne assez bien cette manière de se représenter à cette époque là en tout cas, à s'affirmer en tant qu'artiste. On le voit ici, à ce stade, il n'y a pas beaucoup de portraits d'artistes femmes. Hein. On l'aborde en haut, parce qu'on voit que ça, c'est une pratique qui s'est faite, hein, où les femmes se représentaient aussi, mais qui a été longtemps quand même invisibilisée dans l'histoire de l'art. Maintenant, ça commence heureusement à être redécouvert, mais on le verra qu'à l'étage, oui, il y a aussi évidemment des artistes femmes qui se sont autoportraiturées pour aussi revendiquer leur identité de femme et d'artiste dans ce cas-ci. Mais c'est vrai qu'au début, ce sont essentiellement des artistes peintres hommes.
Effectivement, j'allais le dire. Alors, deuxième espace, on se retrouve.
Oui, voilà. Avancer parce que c'est dans la continuité. En fait, ici, ça montre que cette forme de représentation, les frontières ne sont pas poreuses entre les différentes thématiques. Il y a certaines œuvres, bien sûr, qui pourraient se retrouver dans différents espaces. Ici, on montre que au fur et à mesure de l'histoire de l'art, une représentation formelle de soi a toujours existé. Ici, on a toute une série de sélections d'œuvres qui émanent vraiment d'institutions prêteuses. Essentiellement de la Belgique francophone, mais on a des œuvres qui viennent de Liège, de la Bovrie, de la Galerie Wittert de l'Université de Liège, comme je le disais, pour le Muséal de Mons, le Musée de la photographie de Charleroi, évidemment, le Centre de la gravure et de l'image imprimée de la Louvière, la collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la province de Liège. On a essayé vraiment de mixer, ou en tout cas d'inviter le plus d'institutions à nous prêter des œuvres. Et donc ici, on a une sélection qui s'inscrivent vraiment dans ce mécanisme d'émergence de classique, on va dire, de l'autoportrait.
Vous disiez à l'instant assez peu de femmes, oui. dans cette première période plutôt peinture, et l'image emblématique de l'exposition qui se retrouve sur l'affiche, c'est une femme.
Absolument. C'est Lucienne van der Winnen, qui est une artiste née à Skaarbeek en 1925, qui est décédée il n'y a pas si longtemps, en 2001, qui était peintre et sculptrice à la base et qui enseignait le dessin, le modelage ici à Bruxelles. Et on a retrouvé effectivement cet autoportrait dans les collections communales de Skaarbeek et elle nous a directement tapé à l'œil cette œuvre. C'est une artiste femme qui se représente. Il y a un côté assez solennel dans sa manière de se représenter à une époque où ça bouge, hein, graduellement avec les mouvements féministes, mais on est encore assez tôt quand même dans le temps. C'est un autoportrait qui date de 1950. Et donc voilà, cette œuvre nous a parlé d'emblée. On s'est dit, prenons-la comme emblème, on va dire, de l'exposition. Elle sert l'affiche, hein, qui a été intentionnellement modifiée avec un peu d'intelligence artificielle pour lui donner un téléphone dans la main. Tout ça s'est fait évidemment en lien avec la commune de Skaarbeek et surtout ça nous permettait de connecter un petit peu les technologies parce que on le verra dans le visiteur et la visiteuse le verront dans l'exposition, l'autoportrait est fortement lié à la technologie et ici ça nous permettait d'établir ce lien. Bien sûr l'œuvre originale est exposée à l'étage, hein, dans la partie dédiée aux femmes, auto-représentation et femmes artistes, mais voilà, on trouvait que cette œuvre était bien emblématique de l'exposition, on voulait la mettre en valeur et c'est un patrimoine finalement qui n'est pas très connu, c'est peut-être pas une artiste très connue, en tout cas du point de vue du grand public, Lucienne van der Winnen, mais voilà, ça lui donne un peu une seconde vie, en tout cas à ce tableau grâce à l'exposition et ça on trouvait assez chouette.
Alors comment est-ce qu'on fait d'un point de vue de ce qu'on transmet au public à partir du moment où on décide de monter une exposition comme celle-ci qui s'adresse un peu à tout le monde mais où il y a quand même une volonté de pas simplement montrer des œuvres mais de faire passer aussi un savoir. Ça doit être assez compliqué, on fait des grands cartels, on propose des visites audio, enfin qu'est-ce qui peut justement, quel est le médium, je veux dire, qui va être choisi et comment se fait la sélection de ce qu'on transmet?
Alors c'est un long processus, hein, de plusieurs mois évidemment, avec d'abord un comité scientifique qui se réunit, dans lequel sont représentées les différentes disciplines qui nous paraissent importantes justement pour aborder cet objet d'étude qu'est l'autoreprésentation. Et il y a vraiment eu un exercice, et c'est là-dessus, je pense, qu'on a essayé de mettre le plus d'efforts, c'est de proposer un discours, justement, qui soit accessible. Donc, c'est vraiment ancré dans la recherche scientifique. Il y a eu un exercice de vulgarisation qui a été mis en place par les chercheurs pour rendre, justement, le contenu le plus accessible possible. On a essayé aussi, en termes de structuration des thématiques, de faire en sorte qu'il y ait une logique, voilà, avec à nouveau une approche chronologique, histoire de l'art assez classique dans un premier temps, et puis des problématiques, des thématiques sociétales liées aux gestes sociaux. C'est à lequel l'auto-représentation, mais tout en restant dans un langage qui évite le jargon, dans un langage qui parle et en essayant aussi de mettre en avant des thématiques qui parlent aux gens directement. À nouveau, les dérives du selfie, on a tous en tête par exemple des selfies qui se terminent mal ou des selfies jugés un petit peu scandaleux par exemple. Des artistes femmes, c'est des problématiques qui sont quand même actuelles, qui portent, qui parlent a priori quand même à un grand nombre et on essaie toujours de recontextualiser, de situer ça du point de vue scientifique, d'un point de vue sociétal aussi. Et ça, on pense que c'est une manière qui permet de toucher les gens. Et les œuvres viennent soutenir ce discours en l'illustrant quelque part et en le soutenant et en l'enrichissant aussi par le sens qu'elle véhicule.
Alors, par où allons-nous ?
On va par là.
On va par là.
On suit donc la dimension chronologique de l'exposition. Émergence de l'autoportrait, pourquoi celui-ci se développe. 19e siècle, début du 19e siècle, une innovation radicale qu'est l'apparition de la photographie. Et c'est là qu'on commence à voir une évolution assez forte, puisque là où les peintres qui devaient s'auto-représenter, quelle que soit la manière, ça prenait du temps, ça reste un geste artistique avec des matériaux. Maintenant, avec la photographie, on a cette dimension d'instantanéité qui s'accentue. Au début, ça prenait quand même un petit peu de temps, évidemment, de développer tout ça. Là où aujourd'hui, c'est instantané. Mais donc, la photographie a marqué vraiment un tournant. Et à une époque où la photographie a un peu ce rôle vraiment encyclopédique, hein, toujours dans ce rendu très physionomique à nouveau, hein, de l'individu qui se prend en photo. Mais toute une série de petites évolutions vont faire que le genre va quand même évoluer malgré tout. On pense par exemple au déclencheur à distance qui va en fait permettre aux artistes de ne plus de faciliter l'acte de l'auto-représentation. L'apparition du photomaton au début du XXe siècle, l'apparition de la couleur dans la photographie. Et ce qui est vraiment intéressant à cette période, c'est que la photographie va permettre au genre de l'autoportrait de devenir un peu une sorte de laboratoire d'expérimentation. Donc on voit qu'à partir de cette époque-là, surtout deuxième moitié du XXe, on commence à se jouer un petit peu de l'outil en jouant sur le travestissement, sur la transformation, sur les jeux de reflets, comme le faisait Van Eyck à l'époque dans la peinture avec par exemple les époux Arnold Schwini, se représentant à l'arrière-plan dans un reflet de miroir. Mais on voit que les artistes vraiment exploitent ça de plus en plus. Et surtout, on commence à passer d'une représentation très formelle, très physionomique, à quelque chose de plus introspectif. On met plus en avant une sorte de vie un peu intérieure. Il y a quelque chose de plus intime, en fait, qui commence à se créer, où ce n'est plus juste le spectateur qui est face à quelqu'un qui s'autoportraiture, mais une sorte d'invitation à rentrer un peu dans l'intimité, dans la vie intérieure des personnes, parce que c'est très intime finalement aussi une représentation de soi, et on le voit davantage encore au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Mais donc la photographie pour ça a été fondamentale en fait dans le développement du genre de l'autoportrait.
Alors ici, s'il faut en choisir une.
Alors, j'aime montrer, ce sont des reproductions aussi, puis on parlera d'une œuvre qui est exposée. Ici, Henri Van Poel, qui est un artiste qui a travaillé à Bruxelles et qui est un des représentants du fauvisme en peinture. Et on voit que lui, c'est véritablement accaparé de l'objet, de l'outil, en jouant sur une série de photographies ici qui sont conservées dans les archives de l'art contemporain de Belgique. On le voit vraiment qu'il expérimente, qu'il joue avec les reflets de miroir, alors que c'est un peintre à l'origine. Hein. Donc on voit que ça invite parfois certains artistes à quitter un petit peu leur zone de confort artistique pour aller explorer. Il faut se dire qu'à l'époque aussi, c'était quand même très innovant et ça permettait des possibles, voilà, en termes de représentation que l'on ne trouvait pas avant. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant. Une œuvre que j'aime beaucoup, c'est celle-ci de Dirk Brakman, qui provient du musée de la photographie de Charleroi, où là, on entre vraiment dans l'intimité d'un couple qui se prend ici en effet de plongée, avec un rendu très pictural. Donc on voit que la photographie permet toujours, évidemment, de jouer sur certains effets. Donc voilà, je trouve que c'est une œuvre assez... assez touchante, les deux personnages nous regardent droit dans les yeux, et donc l'autoportrait, l'autoreprésentation comme ça nous confronte en fait à l'autre, à un moment d'intimité de l'autre, et je trouve que voilà, même dans le contexte actuel, ça invite à s'interroger un peu sur l'autre et parfois avoir un peu de compassion, de questionnement par rapport à l'autre personne. Alors vous verrez dans l'exposition que dans certains cas, certaines œuvres comme celle-ci par exemple sont associées à des cartels un petit peu plus longs qui expliquent davantage la démarche de l'artiste. On l'a fait essentiellement pour les créations contemporaines qui ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel à artistes, là où les œuvres qui sont issues plus patrimoniales, issues de collections publiques, sont laissées libres à l'interprétation des publics.
Thank you.
Alors ici, on arrive dans la troisième partie du rez-de-chaussée qui s'interroge sur la redéfinition de l'autoportrait comme genre. Et c'est assez intéressant avec tout ce qui se passe, notamment au XXe siècle, hein, les avant-gardes, mais aussi le développement de l'art conceptuel. Et là, le genre de l'autoportrait va commencer à prendre des formes extrêmement variées. On a une époque où ce n'est plus juste à nouveau le visage qui importe, c'est le corps qui, de manière générale, même dans l'histoire de l'art, est utilisé comme médium, comme support. Et voilà, le corps est de plus en plus exploité. Ce n'est plus juste non plus une représentation de soi au sens strict, ça peut être une trace de soi, une empreinte de soi, un fluide de soi par exemple. La notion vraiment d'autoportrait est interprétée de manière très conceptuelle par certains artistes. On entre en fait aussi dans une ère où l'autoportrait devient presque un laboratoire d'expérimentation un peu identitaire, de redéfinition du soi qui est particulièrement intéressante. Et donc on va avoir parfois des œuvres qui, de prime abord, n'ont pas du tout l'air d'être un autoportrait, or sont quand même un autoportrait. Parfois, c'est simplement le titre à coller à l'œuvre qui va suggérer l'autoportrait, sans que ce soit pour autant évident. Ou alors, ça peut arriver aussi que certaines personnes perçoivent l'autoportrait ou une œuvre comme étant un autoportrait, alors que ce n'était pas l'intention d'artiste. Donc en fait, ce qui est intéressant ici à dire, c'est que, voilà, quel que soit le résultat final, il y a une intention derrière, et si l'intention c'est de donner une image de soi, une représentation de soi, quelle soit, eh bien ça fait partie de ce genre de l'autoportrait. On a quelques exemples voilà, ici qui illustrent un peu cette manière conceptuelle d'appréhender l'autoportrait. Par exemple, là-bas, une estampe de Sonia Delaunay, qui est une artiste assez connue hein, pour l'abstraction géométrique et qui se représente, le titre de l'œuvre, c'est « Avec moi-même ». Et c'est une œuvre bon, voilà, qui, de prime abord, ne laisse pas penser à un autoportrait. Pourtant, et c'est une artiste femme qui l'a fait ici. Bon, un artiste bien connu de la Belgique, Wim Delvoye, voilà, un peu provocateur, qui a produit ses anal kisses, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, mais c'est une forme voilà, de représentation de soi voilà, tournée un peu en dérision. On a là aussi des médiums un peu différents hein, qui interviennent, la sculpture, cette idée d'un peu d'empreinte, de trace. Hein, ici, on reste quand même sur un format de portrait avec l'œuvre de Patrick Guaffi là-bas. Ici, c'est l'œuvre d'un artiste contemporain, Franz Le Boss, qui s'intitule « Self-Storage ». Vous avez donc dans une sorte d'hangar des corps pendus à l'envers, dans des positions un peu torturées, on va dire. Ça laisse beaucoup... C'est une ouverture à l'imaginaire, à l'interprétation. Et à la fois, il y a quelque chose de très intimiste quand on a le titre de l'œuvre juste à côté. Et puis les artistes exploitent même les installations. Le 4 avril, on aura une performance live autour de cette installation Hypersculpture de Thomas Dupal, qui questionne aussi le rôle justement des réseaux sociaux sur la formation d'identité masculine un peu dystopique. Hein, donc voilà, assez complexe. Et l'artiste joue beaucoup aussi sur le mot comme une manière un peu de revenir à l'essentiel. Et donc voilà, comme quoi l'autoportrait prend vraiment une variété de formes en fonction des intentions d'artistes. Il y a autant d'autoportraits qu'il y a d'artistes, en fait.
C'est intéressant d'avoir pensé à aller jusque-là aussi dans le cadre de cette exposition. Donc ça veut dire que là, vous vous retrouvez avec un événement. Ce sera un autoportrait le 4. Oui. En attendant, c'est un décor.
Oui, 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 exact. C'est le décor qui attend l'autoreprésentation, en fait, absolument. Et voilà, et ça montre aussi la diversité des médiums. On voulait vraiment mettre ça en avant parce qu'on a parfois tendance à penser qu'un autoportrait ou l'autoreprésentation, c'est une petite image de soi très classique, très conventionnelle. Et en fait, l'exposition montre que c'est bien le contraire, que c'est plein de choses très variées. Parfois, il faut être un peu imaginatif pour en mesurer la nature. Mais c'est vrai que c'est ce que l'exposition essaye de montrer, la variété des médiums et des pratiques, des formats aussi. On a des choses, il faut venir le voir pour s'en convaincre, mais des toutes petites œuvres, des œuvres très volumineuses, très imposantes. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de l'autoreprésentation en art.
En se retournant, on se retrouve ici face à des autoportraits assez particuliers de Raphaël de Célis.
Voilà, autoportraits au squelette, ce sont des reproductions ici. C'est aussi une pratique qu'on voit qui remonte à des périodes assez anciennes hein, et qui évoque un thème bien connu de l'histoire de l'art, qui est la vanité. Alors la vanité, c'est quoi? C'est un thème qui a été longtemps représenté par les artistes, qui peut prendre différentes formes. Hein. Le plus classique, ça va être généralement une dame, une belle dame qui se regarde dans le miroir. Alors parfois c'est son reflet, parfois c'est un crâne. C'est certaines formes de nature morte aussi, hein, qui évoquent à la fois les plaisirs de la vie, la beauté, la jeunesse, mais aussi la futilité, la fragilité de tout cela, avec généralement la mort qui nous attend. Donc la représentation ici de squelette, est très symptomatique de ce thème qu'est la vanité. Alors évidemment, parce que quand on parle d'auto-représentation, et si on pense par exemple au selfie, souvent une lecture un peu rapide fait penser à un geste narcissique ou une forme un peu d'ego surdimensionné, à tout le temps se prendre en photo. C'est pas un thème nouveau, hein, puisque l'histoire de l'art nous le démontre, mais dans cette section, on a invité toute une série, on a sélectionné une série d'œuvres qui réinterprètent un petit peu le thème de la vanité. Vanité qu'il faut dissocier vraiment du narcissisme à proprement dit. Le narcissisme, c'est quoi? C'est vraiment presque une dimension psychologique, en fait, à investir énormément de valeur en soi, en son image, une extrême valorisation de soi-même, avec un besoin très fort de reconnaissance, parfois un peu de supériorité sur les autres. C'est pathologique, hein, le narcissisme. Là où la vanité, ça repose relativement sur des mêmes mécanismes, hein, c'est une attitude, à se survaloriser, à aimer aussi être mis en avant, ainsi que son image. Mais disons que ça, il y a un côté peut-être un petit peu plus léger, un peu plus commun. Tout le monde, de temps en temps, peut être un peu vaniteux. C'est moins, on va dire, pathologique que le narcissisme. Mais néanmoins, c'est une problématique qui fait partie des dimensions, hein, de l'auto-représentation qu'on a parfois en tête. Et donc ici, on a toute une série d'œuvres qui invitent qui revisitent, on va dire plutôt, ce thème de la vanité. Et notamment, deux œuvres ici que j'aime particulièrement, celle d'Annabelle Millon, qui a été recherchée dans de la xylographie ancienne, donc de la gravure sur bois, des représentations de Narcisse. Donc Narcisse, hein, dans la mythologie grecque, qui était un très beau jeune homme et qui est tombé amoureux de son reflet à un point où il a perdu la vie et à cet endroit-là a poussé un narcisse, qui est une fleur et qui a donné le nom au narcissisme. Donc moi, j'aime encore assez bien cette œuvre-là. Et puis ici vous avez une œuvre de Laurence Dervaux qui représente, en fait c'est une grande plaque de verre qui fait un peu plus de 2 mètres, sur laquelle est peinte en noir une urne, est-ce que c'est une urne cinéraire, est-ce que c'est une urne funéraire, et vu que c'est du verre, on se voit en fait dans l'urne. Hein. Il y a un reflet qui est une invitation aussi à se prendre en photo. Mais comme certaines natures mortes de l'époque nous invitaient un peu à réfléchir quand même sur la futilité à nouveau des apparences et ce qui nous attend tous au final, hein, la mort. C'est un peu littéral, mais c'est ce que veut dire ici aussi l'œuvre de manière plus contemporaine, on va dire.
Ok, eh bien alors, merci beaucoup pour ce premier tour en votre compagnie, mais peut-être les infos pratiques. L'inauguration, le vernissage a lieu ce soir.
Absolument, donc le vernissage a lieu ce soir à 18h, avec une prise de parole à 18h30, et puis la possibilité de visiter l'exposition en avant-première. Elle ouvre officiellement à partir de demain, jusqu'au 31 mai. Il y a des visites guidées possibles les mercredis et les samedis. On a un catalogue, le catalogue reprend les textes proposés dans l'exposition. Il est au prix de 15 €, et permet à tout un chacun de creuser un petit peu la problématique si ça intéresse. On a à nouveau ce parcours vraiment pédagogique pour les enfants, avec un petit document également qui leur permet de visiter leur rythme et en fonction de leurs besoins cette exposition. Il y a aussi tout un programme d'activités, connexes, qui viennent se greffer à la programmation. Il y a une série d'activités, conférences également, les apéros culturels à l'ULB auxquels on va discuter justement de l'aspect plutôt militant de l'auto-représentation. Donc en fait, quelque part, de nombreux thèmes abordés dans l'exposition sont ensuite déclinés dans d'autres événements auxquels tous les publics sont bienvenus.
L'ensemble des infos, on les retrouve où?
Sur le site internet, vous tapez « Je suis là, exposition ULB », vous trouverez toutes les informations pratiques. Thank you.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Anne-Sophie Dradermacher de m'avoir accordé cette interview. La suite de cette visite de l'exposition Je suis là, eh bien c'est pour la semaine prochaine, puisque cette fois-ci nous avons fait le rez-de-chaussée. Eh bien la semaine prochaine nous ferons le premier étage de cet espace Van der Borcht. Alors je vous rappelle que l'exposition Je suis là se tient jusqu'au 31 mai, et dans les dates assez urgentes si on veut, eh bien il y a la fameuse performance de Thomas Dupal qui avait été évoquée lors de l'interview et qui aura donc lieu le samedi 4 avril à 16h, ou plus exactement, si vous voulez, si vous préférez, le samedi 4 du 4 à 4h. Performance appelée Hyper Sculpture. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour un autre Histoire de Savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What